Aujourd'hui, c'est avec une vive émotion que je peux enfin parler à l'antenne.
Une femme, c'est pas juste un truc qui sourit et qui a la peau douce. Une femme, ça bouge, ça pense, ça évolue.
Sorcière.
Tu parles comme un homme. Tu bois comme un homme, ça ressemble à quoi, ça, franchement? Pas comme ça que tu as trouvé quelqu'un, je te le dis tout de suite.
Quand elle a son poum poum shot, et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend dingue. Why? Quand elle whine dans son shot, et y'a pas que chez toi qu'elle a causé qu'un choc, elle est trop belle. S'il est trop maligne pour toi, tcho, dis-toi qu'une fille comme elle ne se dompte pas, laisse courir à boire, car ça devait finir comme ça. Un fantôme de plus sur son agenda.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Salut. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Il est 19h sur l'autre radio. Vous venez de poser vos oreilles dans l'émission Sorcière et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ici, point de balai, de chat noir ni nez crochu. Sorcière, c'est un laboratoire de femmes qui ont envie de s'essayer à la pratique radiophonique, de la chronique à la technique. Et on verra bien si ça vous chatouille les oreilles, si ça vous interpelle ou si ça vous dépareille. Aujourd'hui, nous avons une invitée, Agathe, chef de chœur, vient nous raconter c'est qui, c'est quoi la chorale des filles de voix. Bonjour Agathe, comment ça va?
Bah, ça va bien, bonsoir.
Salut. Bienvenue à toi dans l'émission. Alors ce soir, dans notre chaudron, on s'essaye avec Agathe au vin chaud. Ça tombe bien, c'est l'hiver. Donc, il nous faut du vin rouge, du sucre, un zeste d'agrumes. Et pour bien le pimenter autour de cette table, nous avons Anna, mon petit gingembre tonique et bien enraciné à la technique.
Oh, c'est trop mignon.
Anna, est-ce que tous les potards sont à la bonne place?
Oui.
Anna gère la technique très bien.
Petit gingembre, je retiens.
Elle est de retour. Caro, l'élégante étoile de Badiane, vient nous chroniquer sa dernière lecture. En trois mots, Caro, de quoi vas-tu nous parler?
Je vais vous parler du doigt.
Le doigt, mais lequel? Enfin, Chloé a le parfum envoûtant de la cannelle quand elle nous emmène en voyage à travers ses portraits de femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Dixit Pénélope Bagieux. De quoi, ou plutôt de qui, vas-tu nous parler ce soir, Chloé?
Alors, aujourd'hui, je vous propose de tirer le portrait, non pas d'une sorcière, mais d'un sorcier. Oui, si le mythe de la sorcière est né de la peur des hommes envers les femmes libres et indépendantes, eh bien cet homme, Magnus Hirschfeld, est à coup sûr un sorcier. Magnus Hirschfeld est peu connu du grand public, et c'est bien dommage. Pionnier en matière de sexologie, il fut l'un des pères fondateurs des mouvements de libération homosexuelle, si bien qu'il fut baptisé de son vivant l'Einstein du sexe.
L'Einstein du sexe,
rien que ça. Alors, son œuvre est magistrale, mais elle est surtout avant-gardiste, puisque son histoire se passe dans l'Allemagne de la fin du 19e siècle et s'arrêtera bizarrement dans les années 30. Bon, faut dire que pour ce médecin juif, allemand, homosexuel, le climat n'était pas des plus favorables.
Oui, il me semble qu'on a la Seconde Guerre mondiale qui arrive.
Voilà, et toutes ces cordes de nazillon. Mais commençons par le début. Hirschfeld est né en 1868 au sein d'une famille de médecins conservateurs. Comme tout bon fils de Toubib, il s'oriente vers des études de médecine. Mais lors d'un de ses cours de dégénérescence sexuelle, Il va avoir le déclic. Bon, pour vous la faire courte, en gros, qu'est-ce qui se passe? On exhibe un prisonnier nu, prisonnier puisqu'il a été condamné pour homosexualité. Et pour lui, c'est une révélation. Il se dit qu'il faut qu'il oriente sa carrière vers ce qu'il appelait la souffrance sexuelle. Alors, pour sa famille, sans trop de surprise, elle n'était pas très fan avec l'idée et lui a même proposé d'étudier quelque chose de plus respectable comme le choléra. Ce à quoi Hirschfeld leur répondit « Que dites-vous? Que le choléra vous apportera plus de joie que la sexualité ?» Bref, voici un petit peu la personnalité de Magnus Hirschfeld. Alors, tout bourgeois qu'il est, il profite de ses études pour voyager à travers le monde. Et c'est là qu'il se rend compte qu'en s'immergeant dans d'autres sociétés, d'autres sous-cultures homosexuelles, notamment à Chicago, qu'il y a des points communs entre les différentes cultures. Et de là, va immerger dans son esprit ce qu'il va nommer la théorie de l'universalité de l'homosexualité. Son diplôme en poche, il va ouvrir un cabinet de thérapeutique. Et là, autre fait traumatisant pour lui, qui va avoir un impact important, l'un de ses patients se suicide à la veille de son mariage en lui laissant une lettre, lui disant « S'il vous plaît, pourriez-vous informer le public du mauvais sort des gens qui, comme moi, ne sont pas aptes au mariage ? S'il vous plaît, dites au public tout sur nous. » Et pour Hirschfeld, c'est alors l'évidence, il a un rôle à jouer.
Mais alors de quel rôle ? Un rôle, une mission ? Quel rôle exactement ?
Oui, c'est tout à fait ça, une mission, une quête. Il veut faire changer les mentalités. Donc on se rappelle, hein, on est en Allemagne à la fin du 19e siècle, dans une société quand même plutôt conservatrice. Et il y a une loi qui s'appelle le paragraphe 175 du code pénal allemand qui criminalise l'homosexualité masculine. Il va s'attaquer à ça.
C'est vrai qu'à l'époque, l'homosexualité, c'était pas hyper bien vu.
Pas trop, non. Comme je le disais juste avant, c'était comparé donc à une maladie qu'on étudiait, hein, et on essayait de soigner les gens. Et donc, lui, il va vouloir abolir cette loi. Et pour ça, il va fonder un comité, le comité scientifique humanitaire. Il va mettre d'abord une pétition. Et cette pétition va être largement signée, et notamment par des grands noms qu'on peut citer, hein, Freud, Einstein ou encore Tolstoï. Et pour soutenir son fait, hein, son action, il va avoir besoin de données scientifiques, de dire cette chose n'est pas une maladie, cette chose est naturelle, cette chose est biologique, j'ai la preuve, j'ai les résultats scientifiques. Et donc il va mener une grande enquête qui va pouvoir alimenter. Et donc c'est lui, en somme, qui va ouvrir cette science de la sexualité pour expliquer les différentes identités sexuelles. Bon, je vous spoil un peu l'histoire. Notre cher Hirschfeld sera pas très loin de réussir à faire abolir la loi. Puis les années 30 arriva avec, je le disais, hein, cette cohorte de nazillons. Bref, le paragraphe 175 sera finalement aboli en 1994.
Oui, ça a pris un peu de temps. Mais en tout cas, il a œuvré à faire changer les mentalités par la recherche scientifique et le militantisme, on dirait.
Oui, tout à fait. Mais pas seulement, il va avoir encore plus grand. Et en 1919, il va ouvrir le premier institut de sexologie au monde. Alors dans cet institut, on y retrouve plein de choses. À la fois une bibliothèque qui rassemble tous les écrits de l'époque sur l'homosexualité, mais sur les sexualités de manière générale. Aussi un musée, et c'est surtout un lieu d'écoute et de soins. D'abord, il va proposer à ses patients des consultations, des thérapies, mais aussi un lieu d'information sur la contraception, les maladies sexuellement transmissibles. Hein. Faut se rappeler que la syphilis, à l'époque, faisait rage. C'est une sorte de planning familial d'avant l'heure, finalement. Et en parallèle, il devient quelqu'un de public, un personnage public à travers le monde. Il va parcourir le monde en menant des conférences. Il va écrire deux ouvrages majeurs, Le tour du monde d'un sexologue et Le corps et l'amour. Il va même participer à un film en tant que scénariste et acteur. Ce film, je vais le dire en allemand, Anders als die anderen, en français, différent des autres, qui fut à sa sortie un véritable succès dans le Berlin de l'entre-deux-guerres, et puis va faire scandale et finalement sera censuré.
Alors c'est impressionnant ça, Chloé, le parcours de cet homme, mais je me demande, les femmes dans tout ça ?
Eh bien, les femmes ont aussi leur place dans son travail. Magnus ne s'intéresse pas simplement au fait de l'homosexualité masculine, même si c'est le sujet, puisque la loi, hein, je vous le disais, le code pénal allemand interdit l'homosexualité masculine. Comme si dans la mentalité de ces bons penseurs de l'époque, l'homosexualité féminine n'existait pas, tu vois. Mais pas pour Hirschfeld, il le sait bien, il s'intéresse à toute forme de sexualité et va intervenir notamment auprès des femmes, pas n'importe lesquelles, celles qu'on appelait à l'époque les travestis. Elles étaient connues, certaines, pour s'habiller en homme, pour pouvoir intégrer l'armée. Mais pour Hirschfeld, c'était aussi une façon de pouvoir vivre dans des vêtements d'homme, et que c'était aussi un prétexte. Et il va réussir à convaincre la police d'émettre des laisser passer afin qu'elle ne soit pas arrêtée.
Donc il était sexologue, médecin, chercheur, militant, scénariste et même acteur. Impressionnant, on dirait un peu le Bernard Lavilliers allemand.
Ouais, c'est à peu près ça. Et son histoire ne s'arrête pas là. Peut-être que tu connais le film The Danish Girl.
Alors non, je connais... Non.
Ah bah, je t'invite à le regarder, c'est un super film. Il relate l'histoire d'une femme, Lily Elbe, ou Elbe, je n'ai pas forcément un très bon accent danois. Donc c'est une artiste danoise qui est surtout connue pour être une des premières femmes trans ayant bénéficié d'une chirurgie de réattribution sexuelle. On est dans les années 30. Et bien Magnus Hirschfeld, qui est un peu partout, il est aussi sur ce coup-là, puisqu'il va collaborer à son opération. Alors malheureusement, Elbe va mourir à sa quatrième intervention. Mais voilà, il était aussi dans ce fait.
Alors c'est tout de même incroyable que juste avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il ait pu exister un tel personnage. Enfin, bon.
On ne croirait pas ça possible, c'est vrai que c'est étonnant puisqu'on a ces mentalités, ces idées noires hein, qui arrivent tout doucement dans les années 30. Mais Berlin d'entre-deux-guerres est très libéral, on est en pleine République de Weimar et c'est connu pour être une scène culturelle et politique homosexuelle importante. Mais comme tu le dis, cette parenthèse ne va pas durer. Et Hirschfeld, autant qu'il va gagner en notoriété à travers le monde, eh bien, autant le nazisme va aussi égrener. Et d'un côté, les travaux d'Hirschfeld vont susciter un intérêt à l'échelle internationale. Mais en même temps, ses conférences en Allemagne vont être chahutées et lui-même va être passé à tabac, laissé pour mort. Et le 6 mai 1933, va avoir lieu un des premiers autodafés nazis. Ça va être dans son institut qui va entièrement brûler. Hein, sa bibliothèque contenant énormément de littérature sur l'homosexualité brûle. Donc c'est toute cette pensée qui disparaît. Et lui a été prévenu. Il était à l'étranger, il était à Nice. Et on lui dit non, ne rentre pas. Donc il se réfugie à Nice. Et il meurt 2 ans plus tard, le cœur brisé en fait. D'une crise cardiaque, voilà, le cœur brisé. Et tous les ans, sur sa tombe, viennent se recueillir des militants. Voilà, Magnus Hirschfeld, je voulais vous le présenter parce que pour moi, c'est un modèle de résistance. Il a donné sa vie pour apporter un regard scientifique sur la sexualité. Il est malheureusement peu connu et je me pose la question, qui sait ce qu'il aurait pu faire si le nazi n'avait pas freiné son élan.
On se demande tous.
À quel âge il est décédé?
Ah, bonne question, il est né en 68, donc il faudrait faire un petit calcul, mais il n'était pas bien vieux.
Ouais, c'est ça, donc s'il était resté. Ok. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said. Whatever will be,
Merci Chloé, c'était Marcus Miller et C'est la Chou. Et merci à toi pour cette chronique. Caro, pendant la chanson, tu te posais des questions.
Bah oui, moi je me disais, mais qu'est-ce que c'est l'universalité de l'homosexualité ?
Alors ça c'est...
question petit Larousse.
Non, mais en fait, parce que je comprends bien la démarche de ce monsieur et... qui est très louable en plus. Enfin voilà. Après, il est resté un peu dans l'ombre.
Il n'arrivait pas à la bonne époque, je pense. Hein, et
ouais,
pas dans
ouais,
le pays
en même temps,
aussi.
C'est lui qui a posé un peu les bases de la recherche scientifique déjà, à porter ce sujet-là, tu vois, sur la table. Mm-hmm. Lui-même homosexuel, donc il a dû se poser des questions parce que d'a priori dans son milieu, c'était pas forcément toléré, et il a voyagé, il s'est immergé dans des communautés, et il s'est rendu compte parce qu'il vivait à Berlin, il le retrouvait à Chicago, il les retrouvait dans des témoignages en Algérie, à Tokyo, et il s'est dit, bah tiens, ce qui se passe à Berlin où je le retrouve ailleurs, c'est qu'il y a peut-être un fil conducteur, et peut-être que c'est naturel finalement,
oui.
Et à partir de là, bah, faut faire de la recherche. Donc il a lancé un questionnaire, il allait interviewer des milliers de Berlinois, des étudiants, des ouvriers, et il a sorti des stats que 1,5% de la population de Berlin est gay, et que 3% est bisexuel. Et donc à partir de là, il a dit, bah voilà, c'est un fait, c'est scientifique, c'est prouvé, on avance. Et les gens à Berlin étaient ouverts là-dessus, tu vois. Mm-hmm. Puis entre-temps, il y a d'autres mecs un petit peu moins ouverts d'esprit qui ont commencé à prendre un peu de place. Et
c'est le problème de la moustache.
Voilà. Ouais, non, c'est ça, tu vois. Ouais, c'est une sorte de moustache.
Peut-être.
Peut-être.
Je ne
ouais.
sais pas.
Bah, peut-être. Je ne sais pas. Ou de raie.
Ou de raie, en effet. Et maintenant, c'est sur cette transition formidable.
Allons-y.
Je trouve que la raie a toute sa place dans cette chronique.
Parlons coiffure.
Donc, je voulais enchaîner sur toi, Agathe. On ne pouvait pas.
Quelle transition.
On ne pouvait pas avoir meilleure transition après avoir atteint le point Godwin. Agathe, toi, tu es la chef de chœur de la chorale. Attends, tu es la chef de chœur de la chorale. Oui, si, c'est ça. Des filles de voix.
Oui.
Qui, si j'en crois votre page Facebook, existe depuis au moins 2018, c'est ça ?
Alors, je crois que c'est 2017, le point de naissance de la chorale.
Ok.
C'est arrivé comme ça, en faisant de la musique avec les copines dans le salon, où j'ai eu la bonne idée d'essayer de me mettre au piano et donc de pianoter des chansons prises sur Internet comme ça. Et les filles chantaient et moi j'essayais de suivre en pianotant derrière.
D'accord.
Et au bout d'un moment, on s'est dit bon bah c'est bien là, on est 4, 5, on pourrait faire une chorale. Ouais, vas-y, allez hop. Au final, on était 12. On a tenu comme ça 6 mois, 1 an, et on s'est dit 12, c'est pas assez. Quand il en manque une, on répète, on est un peu coincé. Et hop, au final, on est arrivé à 24 choristes, qui est le format final de cette chorale. Parce que
pas plus de choristes.
C'est suffisamment pour pouvoir être suffisamment nombreuses pour les concerts, les répètes, sans trop galérer. Et puis, c'est suffisamment peu pour pouvoir passer dans les bars, dans des lieux un peu exigus, mm-hmm. où à partir du moment où on est plus de 30, c'est compliqué. Donc, on a voilà, un peu élargi comme ça le groupe. Et maintenant, on est à peu près sur un format, en tout cas pour l'instant, fixe, avec 3 pupitres, donc de 8 filles, donc 3 grandes... grande partie dans le chœur, et du coup ça reste cet effectif là. Quand il y en a une qui part, et ben on en fait rentrer une autre.
Oui, parce que j'ai appris qu'il y avait une liste d'attente pour rentrer dans la chorale des filles de voix, que certaines ont attendu 2 ans. J'étais impressionnée.
Oui.
Et que ça marche par cooptation un peu. Ouais.
Bah en fait, comme c'est une chorale de copines, au départ chacune a ramené ses copines, et puis on a un peu posé les bases du projet aussi. On s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui est important pour nous. Moi, j'ai pu aussi dire ce qui était important pour moi pour pouvoir continuer à consacrer du temps à ce projet, à avoir envie de mener tout ça. Mm-hmm. On s'est dit, voilà, il faut être quand même assez autonome dans sa pratique musicale, pouvoir déchiffrer les partitions à la maison, donc à partir de partitions écrites, mais aussi d'audio. Mm-hmm. Sur les morceaux, d'être assez présente, parce que si on se met dans la chorale, on prend l'une des 24 places, mais qu'on n'est pas assidu, bah, du coup, on prend la place de quelqu'un qui pourrait peut-être l'être plus. Et si on veut travailler le son du cœur, l'énergie du groupe, travailler des petits points de détail en répétition des morceaux, bah, c'est important que le maximum puisse être là. Alors, tout ça en étant relax, hein, c'est un hobby, c'est un plaisir avant tout. Mais on a aussi du plaisir dans l'exigence de ce qu'on fait. Donc c'est important aussi de se dire on est d'accord toutes, en tout cas avec ça. Et donc voilà, donc c'est pas de la cooptation vraiment très voilà, il y a pas d'audition, il y a pas voilà, c'est plutôt être dans l'esprit de cette démarche-là, avoir envie de ça et puis.
Alors moi j'entends bien, j'ai commencé, je faisais 2-3 petites notes au piano et mes copines se sont mises à chanter, mais alors tout le monde s'improvise pas chef de chœur comme ça. Toi tu viens d'où pour pouvoir d'où tu pars pour pouvoir être chef de chœur d'une chorale et avoir ces connaissances là en tout cas.
Ouais, alors j'ai un parcours musical personnel, à la fois en tant que choriste, c'est comme ça que j'ai commencé le chant. J'ai été aussi chanteuse dans différents groupes de musique actuelle, un groupe de funk notamment,
qui s'appelait
Thank You Very Much. Voilà, you very j'aime much les jeux de mots ouais,
que les Mayennais connaissent tous un peu.
C'est ouais. Ça, carrément. Peut-être.
Oui, les filles de voix, Thank You Very
non,
Much.
Non, c'est pas moi qui ai trouvé les noms à chaque fois, mais, mais en l'occurrence, voilà, les jeux de mots me suivent. Je vais peut-être ouvrir un coiffeur, un de ces quatre.
Oui, c'est ça.
En tout cas... Elle était nulle cette blague.
Non mais c'est, on a tous compris que tu faisais
la référence à Gaden Matoli. Coupe-tif.
Bref, en tout cas, voilà, donc plusieurs groupes de musique et j'ai toujours continué le chant choral. Quand je suis arrivée en Mayenne en 2012, j'ai eu envie aussi de continuer le chant choral et du coup j'ai monté un petit groupe de gospel avec quelques copains encore. Donc c'était plutôt mixte à cette époque-là, mais vraiment un mini groupe. Il y avait une dizaine de chanteurs. Et puis après j'ai eu un bébé, ça s'est arrêté et du coup après ça, voilà, j'ai repris. Cette chorale, en me disant que les chorales, c'était peut-être fini pour moi. Et finalement, bah, voilà, les copines aidant, vas-y, on recommence. Voilà.
On y retourne, ouais. Tout ça. Ok. Et alors, vous...
Et nous, on peut poser des questions ?
Oui, vas-y. Et j'en ai préparé plein, mais je te laisse la place.
Moi aussi, j'en ai plein. Et du coup, c'est pas toi qui as trouvé ce nom, les filles de voix. Est-ce que vous aviez imaginé d'autres noms pour cette chorale ? Comment c'est venu ? Enfin, je vois bien le jeu de mots sur les filles de voix.
Ouais, c'était une référence à Brassens quand même au départ.
Je vois bien le jeu de mots, mais du coup, est-ce que vous êtes passé par d'autres étapes pour trouver ce très beau nom de chorale ?
Ouais, en fait, c'était dans les 6 premiers mois, je crois, de la chorale où on a commencé à faire un concert, je crois, et il fallait mettre un nom sur l'affiche. On a dit qu'est-ce qu'on met ? On s'est donné 2-3 répètes, on a fait du brainstorming, il y a plein de noms qui sont ressortis. Au bout d'un moment, il n'y avait aucun nom qui plaisait à tout le monde. Donc, on a tranché pour quelque chose d'assez neutre, d'assez transparent, qui permette de savoir que ça va être une chorale, que ça va être des filles, que ça va être de la chanson. Donc, ça corrigeait toutes les cases. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, c'est un nom qui nous corresponde vraiment. Et il n'est pas exclu qu'on en change comme ça, de manière inopinée. En défiant les lois de la communication claire et facile. Ouais.
Peu importe. Je vérifie que personne n'a de questions.
Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut savoir les noms que vous aviez imaginés en dehors de celui-là ?
Je les avais notés dans un carnet. Alors, ça date maintenant. Alors, il y avait quoi ?
Dis-nous ceux dont tu te rappelles.
Bah pour moi, en tout cas, c'est les filles de joie. Je dis toujours les filles de joie. Hein.
Bah, tout le monde, en fait.
J'imaginais bien que j'étais pas toute seule.
Ouais, ouais. Ouais, tout à fait. J'arrive pas à retrouver comme ça les noms qui étaient sortis et qui ont été brassés. Alors, il y avait les Pinko Anono. Parce que notre guitariste à l'époque s'appelait Arnaud. Donc, il se trouve qu'entre-temps, Arnaud est parti vers d'autres projets musicaux et c'est maintenant Julien qui fait la guitare. Mm-hmm. Donc, heureusement qu'on n'a pas gardé ce nom parce que là, on était un peu coincés sinon.
Ça serait devenu les Pinko à Juju, quoi.
Les Pinko à Juju, ouais. C'est ça. Il y avait quoi Ouais, j'arrive pas à trouver là comme ça.
Si
mais...
ça te revient en cours d'émission.
Ouais, il y avait ça.
Voilà. Ça sera bien.
Alors, on pense chorale, on a plutôt en tête des images d'enfants, de religieux, de personnes âgées, voire religieux et âgés. Ouais. Alors que vous, c'est pas du tout ça. Vous poussiéré, à mon sens, hein, le genre en créant une chorale de copines qui chantent des musiques assez actuelles quand même.
Oui.
Il y en a qu'on entend beaucoup à la radio.
Il y en a qu'on entend dans des jingles et tout.
Exactement. Voilà.
Exactement, oui, vous chantez Nutty.
Elle te rend dingue.
Voilà, avec bah son ouais. Poum Poum Shirt.
Exactement. Exactement, c'est un peu notre morceau chouchou, notre morceau fétiche.
Je vous aime.
On l'adore ce morceau. Franchement, au départ, je l'avais proposé. Ça... Les filles, ouais. Ça leur parlait pas trop. Et finalement, en le chantant, c'est un morceau qui est plaisant à chanter, en fait, qui est hyper rythmé. Et où on peut vraiment rigoler avec. Et
Oui, mais on sent qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de joie, ouais. Enfin, ouais. Ça sort à plein
c'est
tube.
Ça. C'est ça.
Tout le monde s'exprime à plein tube sur ce titre, en tout cas.
Ouais. Complètement.
Et on peut dire que vous êtes toutes des femmes actives, en plus dans cette chorale. Donc, ni âgées, ni trop enfants, ni trop religieuses. Mais pourquoi que des filles ?
Alors là, bonne question. C'est parti des copines. Puis je crois qu'en fait... C'était une époque aussi où on avait envie de se retrouver entre copines, sans les enfants aussi. Donc, il faut bien que quelqu'un garde les gosses, hein, quelque part. Donc, c'est un peu venu comme ça. Et puis, les voix de filles, ça s'arrange aussi d'une manière. En tout cas, moi, ça me parlait. J'entendais des idées d'arrangement pour les morceaux, pour les copines en question. Et puis, il y avait ce côté un peu sororité. Et petit à petit, dans le choix des morceaux, on se rend compte que... On parle de la féminité sans en parler vraiment, mais on essaye d'être dans un nuancier un peu vaste et varié en termes d'émotions, en termes de représentation aussi en tant que fille. Et un groupe de nanas qui chantent, en fait, ça raconte quelque chose vraiment. Et au final, de ce projet qui n'est pas né d'une envie particulière de monter un groupe de filles, que des filles, etc., finalement, ça s'est transformé en quelque chose qui continue à avoir du sens aussi dans ce qu'on fait. Et ça nous plaît bien aussi de se retrouver entre nanas. Je pense qu'aussi dans le choix des morceaux, quelque part, il y a plein de choses qui nous parlent aussi en tant que nanas à peu près d'une même génération aussi. Il y a des références communes.
Et à ce propos, quel type de morceau tu pourrais dire un peu aux auditeurs qu'est-ce que vous chantez ?
Ouais. On chante à la fois des trucs assez anciens comme des morceaux de Nina Simone qui sont des... Voilà, des noms incontournables de la musique noire américaine et qui racontent aussi par rapport à la place des femmes beaucoup. Donc, c'était intéressant d'aller là-dessus. On chante aussi des choses en français plus récentes comme Bar de nuit de Sandor, qui est un morceau qui est sorti, je crois, en 2018 ou 2017. On a aussi Nutty, elle te rend dingue, donc ça c'est le petit pas de côté un peu rigolo. On a des morceaux de La Chica qui est une artiste franco-vénézuélienne qui a beaucoup tourné dans les festivals l'année d'avant mm-hmm. pour les festivals.
Il y en a une qui compte pas.
C'est ça. Voilà, tout un ensemble de morceaux un peu de partout, en anglais, en français, en espagnol un petit peu. Du coup, pour La Chica, c'était en espagnol, mais...
Et vous jouez aussi Camille, je crois.
Oui.
Avec la chanson Chihuahua.
Tout à fait.
Et ben on va l'écouter parce que vous êtes venu à l'autre radio le 25 décembre et Joël nous a fait un bel enregistrement.
Oh yeah.
Go away. When she was young.
Alors, vous l'avez peut-être déjà croisée avec ses copines des filles de voix, sûrement de dos, hein, concentrées. Elle chaloupe et bat la mesure. Oui, parce que j'ai regardé les vidéos hein, avant pour préparer l'interview. Donc, tu bats la mesure pour donner le rythme et l'intensité. C'est Agathe Mouchard, chef de chœur des filles de voix, qui est avec nous dans l'émission Sorcières ce soir. Donc, Sorcières, émission tous les troisièmes mardis du mois sur l'autre radio. Moi, je me demandais, c'est quoi ta source d'inspiration pour choisir les chansons? Est-ce qu'il y a des critères établis? Tu choisis seule?
Non, je choisis pas seule. On va dire que je suis celle qui a le dernier mot de l'histoire, quoi qu'il en soit. Je consulte beaucoup les filles. On a une playlist collaborative où chacune met les morceaux qu'elle aime, etc. Et moi, à l'intérieur de ça, j'écoute. Quand je trouve une idée d'arrangement, quelque chose qui me vient, je peux commencer à faire le morceau. Après, il y a des critères quand même qui sont assez récurrents, c'est-à-dire que les morceaux avec beaucoup de textes en anglais, c'est très compliqué derrière à mettre en place. Donc, est-ce que ça vaut le coup de vraiment galérer 5, 6, 7 répètes pour monter un morceau qui va être peut-être un peu foireux? Donc, des fois, voilà, je choisis en fonction de ces critères-là. Les morceaux qui sont très, très produits aussi, Rihanna, Beyoncé, dès qu'on met plus rien en dessous en termes de masse sonore, c'est compliqué. La mélodie, elle est très courte. Rythmiquement, souvent, c'est hyper chiadé. Bon, c'est un peu casse-gueule. Donc, des fois, voilà, j'écrème un peu aussi les propositions comme ça. Pareil sur la chanson française, Vincent Delerme, magnifique, mais bon, je vois pas comment je pourrais faire chanter ça aux filles, concrètement.
Tu fais des choix adaptés
à la chorale. Je fais des choix adaptés à la chorale. J'essaye aussi d'ajouter les morceaux pour que le set soit pas trop uniforme. En termes d'intention aussi, de voir comment les morceaux s'intègrent les uns aux autres, pour qu'on soit parfois un peu dans l'énergie, parfois dans la colère, parfois dans l'amour, parfois à tous les endroits.
Je me permets juste parce que j'ai lu un de tes échanges de mails avec Joël notamment qui a pris le son lors du concert du 25 septembre et puis qui essaye de vous en ressortir quelque chose qui soit écoutable et sympa et qui essaye de rendre ce qui se passe en live. Et en effet, alors tu utilises des images, tu parles de bouée à moitié immergée, de bouée d'amarrage à moitié immergée, de cœur qui viendrait comme une marée manger la soliste, enfin c'est hyper beau. J'ai trouvé que c'était hyper poétique cette vision.
Je travaille comme ça beaucoup avec les filles. En fait, j'utilise beaucoup d'images plus ou moins appropriées, plus ou moins rigolotes, alors qu'elles ne devraient pas l'être, et donner plutôt de l'inspiration. Mais bon, ça fait partie de ma manière de faire. Maintenant, les filles le savent. Donner des images pour comprendre l'intention d'un morceau, savoir ce que j'attends au début du morceau, par exemple quelque chose de doux. Donc, je vais essayer de leur donner une image. Admettons là vous êtes sur une mer très calme et là tout d'un coup la mer s'agite, ça peut être le genre d'expression que j'utilise pour donner un peu l'intention. Tu as parlé de la soliste, et effectivement on a entendu un morceau avec une soliste. Les filles de voix, c'était aussi un peu ce goût du karaoké pas du tout, enfin complètement assumé pour le coup, et l'occasion de permettre à des filles du cœur de prendre le lead, de prendre un solo, franchement, toutes en rêvent, peut-être.
Elles en rêvent toutes.
Peut-être, en tout cas, c'est pas facile de d'avoir cette place, et puis de...
Il y en a
de...
pas qui veulent se cacher derrière,
si,
un peu,
si, 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 si. Quand je dis tout en rêve, ça veut dire que bah, dans notre salle de bain, quand on est avec notre brosse à cheveux et qu'on chante du Céline Dion à pleine balle, voilà, on se dit finalement, à part au karaoké live qu'on peut voir un peu en ville, il n'y a pas beaucoup d'espace où on peut prendre le micro et chanter sa chanson préférée. Et là, c'était aussi donner la possibilité aux filles de pouvoir le faire. En tout cas, celles qui le souhaitent et celles qui veulent le travailler. Et je les accompagne en ce sens. On se prend des temps de répétition aussi avec les solistes pour préparer ça. Que ce soit un moment vraiment vécu pleinement, c'est ça qui compte. Plus que voilà, la soliste parfaite, c'est, je veux moi une soliste qui incarne ce qu'elle chante, qui mouille sa chemise quand elle chante et qui va au bout de sa démarche avec toutes les fragilités qu'elle a et qui sont hyper belles en fait quand elles sont assumées. Et il y a des voix magnifiques dans ce groupe, c'est clair, vrai. C'est clair.
C'est vrai, c'est pas que des copines, c'est aussi des jolies voix.
Ouais, c'est vrai.
Mais ça doit être... hyper soutenant de prendre un lead en étant accompagné par les autres choristes, en fait.
Tout à fait.
Et du coup, plus facile, certainement, quand on est prêt.
Ouais, tout à fait. Mmh. Et il y a aussi ce truc de... Parce que quand on prend le micro seul, avec un groupe derrière, que ce soit des choristes ou des musiciens, il y a un peu ce côté, qu'est-ce que je fais de mon ego au moment où je suis là à chanter, tout le monde me regarde, et en même temps, je suis là parce que j'accepte ça. Et le fait d'être à l'intérieur d'un chœur et de venir prendre la parole à un moment donné, on ne le fait pas que pour soi, on le fait pour le groupe. Et on vient apporter quelque chose au projet collectif. Et ça, c'est très fort, du coup, dans ce côté groupe. Et je trouve que ça aide à être dans une simplicité... assez chouette.
Mais alors, est-ce que c'est facile de diriger? Parce que est-ce que tu t'es entraînée longtemps devant ta glace pour faire des mouvements de chef de chœur comme ça?
Alors, j'ai suivi une petite formation quand même au Conservatoire de Laval, okay, qui propose aux personnes qui pratiquent ou qui aimeraient pratiquer la direction de chœur, mm-hmm, un parcours de formation. Voilà, j'ai aussi beaucoup observé les chefs de chœur qui m'ont dirigée en tant que choriste. Et puis, chaque chef de chœur a un peu sa gestuelle. Là, on est sur un répertoire, c'est pas comme le répertoire classique où on a des choses très, très, très fines, très, très complexes. Là, c'est globalement assez simple. Du coup, elles ont besoin de moi surtout comme chauffeuse de salle, en gros. Hein. Je suis de dos, le public ne me voit pas, mais je fais des mimiques. Je leur dis, là, vous mettez toute votre âge.
Mais de dos, ça se voit quand même.
Ouais, ça se voit. Et voilà, donc c'est surtout ça qui compte, et derrière le mouvement suit dans les gestes, effectivement, voilà, tout ce qui est battu, tout ce qui est les départs, ça c'est des choses que j'ai apprises, mais qui sont pas très techniques au final.
Alors il paraît qu'on apprend mieux lorsqu'on est détendu, est-ce qu'on rigole beaucoup chez les filles de voix?
Je sais pas si on rigole beaucoup, en tout cas on travaille beaucoup sur la détente. Sur la relaxation, on commence toujours une répétition par un travail d'échauffement du corps, de respiration. L'idée, c'est de fermer les yeux, de laisser de côté tous les soucis de la journée et de se recentrer sur sa respiration, son souffle. On fait un peu des bains sonores avec des notes tenues. Ça fait un peu comme des massages sonores. On est vraiment dans cette recherche de bien-être physique, physiologique avec la voix.
La chorale yoga un peu.
Et émotionnel. Ça commence un peu comme ça. Ouais. Et puis après, effectivement, on met un peu plus les émotions, l'interprétation et le travail vocal et technique. Ouais.
En fait, c'est hyper corporel hein, quand même, tout ce que tu nous racontes.
Oui, complètement.
Vous êtes un corps déjà quand vous chantez. Vous êtes une unité corporelle. Quoi. Finalement, la choriste, c'est la tête. Quoi. Et la tête, elle peut changer. La soliste.
Oui, la soliste, ouais.
D'ailleurs, elle change.
Et d'ailleurs, elle change. Ouais. Et on essaye de toujours veiller à ce qu'un solo ne soit pas forcément la propriété d'une des personnes du groupe, parce qu'il suffit que cette personne ne soit pas là au concert pour qu'on ne puisse pas le chanter, et c'est quand même trop bête. Et puis, c'est aussi l'occasion pour notre public, qui est quand même beaucoup fait de nos proches, des gens qui... On a beaucoup de gens qui viennent nous voir à chaque concert, parce que voilà, ils ont une personne de leur famille ou de leur entourage dans le cœur. C'est l'occasion de redécouvrir le morceau avec une autre interprétation, une autre couleur. C'est chouette.
Moi, je vais dire un dernier truc. Mais quand même, on revient au début, parce que chorale, on s'imagine des choses et tout ça, mais on est quand même dans la communion.
Merci,
c'est
Caro.
Beau, Caro.
Mais oui, élégante comme une étoile de Balienne. Alors, moi, si je te demandais si on rigole beaucoup chez les filles de voix, c'est parce que du côté des sorcières, Anna a tapé fort lors de la première émission avec son micro-trottoir sur le pisse debout. Eh bien, elle y revient parce qu'apparemment, elle n'a pas fait le tour du sujet.
Ah mais je pense que je n'aurais jamais fait le tour du sujet tant que tout le monde n'aura pas essayé le pisse debout. Et du coup, j'avais envie de vous en reparler parce que je l'ai fait essayer. Donc, je vous remets un petit peu le contexte.
T'as fait un micro-trottoir en faisant ça ? En faisant essayer ?
Non. Caro, madame, je vous remets le contexte.
Elle remet le contexte. Bon, je suis le temps.
Écoute bien. Un vendredi soir, 7 gonzesses, pas de gosses, pas de mec, un karaoké, et bah, c'est juste un essayage aux petits oignons du pisse debout que j'avais ramené dans l'espoir ou pas, mais au moins d'en parler, mais pas forcément de le faire essayer. Et du coup, elles se sont toutes prises au jeu. Donc, elles ne connaissaient pas du tout cet objet. Et direct, quand j'en ai parlé, que j'ai expliqué l'utilité, tout le monde s'est dit mais vas-y, mais je veux essayer. Et bah bam, ni une ni deux, ce sont les 7 qui se sont prises au jeu du lever de lunettes et du dégainage de pisse debout. Et c'est par une qu'elles descendent les escaliers avec le sourire jusqu'aux oreilles en prononçant ces quelques mots. Non mais c'est génial. Non mais c'est magique. Non mais Anna, j'en veux un pour Noël là. Non, les filles ont fait une commande groupée, non ? J'ai trop bien visé les meufs. C'est trop pratique. Eh les filles, j'ai réussi sans les mains. Bon, je vais pas vous mentir, il y a quand même eu un raté mal calé entre les jambes et un trop gros débit qui a giclé un petit peu. Mais quand même, ce fut une opération très réussie et une belle découverte pour la majorité. Prochaine étape. L'avoir en soirée à l'extérieur.
Moi, j'ai une question. Est-ce que quelqu'un t'a réclamé le modèle chic en porcelaine ?
Pas du tout. Elle savait pas écouter l'émission. Je leur en ai pas parlé de...
Dommage. C'est le 2 en 1, saucière, repas de Noël.
Saucière et pisse debout.
Eh bien, des pisse debout aux gorges profondes, il n'y a qu'un pas. Alors, pourquoi je parle de gorges profondes ? On fait les transitions qu'on peut. Hein.
Je t'aime, Stouf.
C'est Agathe qui a choisi une chanson de Deep Throat
Choir.
C'est pas facile. Est-ce que tu peux le dire, s'il te plaît ?
Deep Throat Choir.
Qui veut dire
Les gorges profondes, la chorale des gorges profondes, qui du coup sonnait bien avec les filles de voix, les filles de joie. Voilà, c'était assez sympa. En fait, c'est une chorale américaine de Nana qui est vraiment super, que je vous encourage à découvrir, à écouter sur les plateformes musicales.
Elle fait très professionnelle, hein, cette chorale. Elles sont vraiment très douées.
Ah, ah, ah.
Agathe, c'était
les Deep Throat Choir.
Oh, je te remercie, quel accent anglais formidable. Qui chante Ada, c'est ça?
C'est ça.
Donc on passe la main tout en délicatesse à Caroline, venue nous éclairer à la lueur de ses dernières lectures.
Donc Dali Farah, Le Doigt. Titre court et qui en dit long pourtant. Parce que qu'est-ce que Le Doigt? Le Doigt, c'est d'abord un second roman. Parmi les 5 romans finalistes du prix littéraire du second roman 2022, organisé par Lecture en Tête. Mais qu'est-ce que Le Doigt pour cet auteur, Dali Farah, qui s'inspire largement de sa vie pour écrire ses récits? Ah, qu'est-ce que Le Doigt, hein? Le roman explore la polysémie de ce mot. Et Le Doigt, c'est d'abord un roman qui s'ouvre sur une scène de violence ordinaire, qui commence avec un inkipik percutant, comme ça. La main se lève et fait un doigt d'honneur, deux enjambées, et elle retrouve devant le lycée une voiture, et elle se retrouve devant le lycée, pardon. Une voiture atteint le parvis en même temps que la femme, l'automobiliste surgit, se plante droit debout, la dépasse d'environ 30 cm et d'au moins 30 kg. L'homme surplombe, rage et crie. Recommence ? Et il attend. Leurs visages sont proches, ils pourraient s'embrasser sur la bouche. Un second doigt d'honneur se dresse à 2 cm de la joue rasée de près. Le corps de l'homme se déploie dans le silence et l'immobilité de la nuit. Son bras se tourne à 90 degrés, paume ouverte. Le visage de la femme reçoit une gifle. Alors, Le Doigt, ce n'est pas juste le fil de l'œuvre, c'est le point de départ du roman. C'est l'origine d'une agression physique, suivie d'une plainte, suivie d'une démarche de réparation. Le doigt, le geste, on le comprend, c'est le doigt d'honneur. D'honneur, le mot est fort. C'est l'histoire d'une femme qui se défend, s'exprime, s'affirme et reçoit des coups. Le Doigt, c'est un roman qui réfléchit. Il réfléchit sur le sens de ce geste, en mêlant point de vue, définition et commentaire des protagonistes. On le découvre dans le regard des collègues enseignants en salle des profs. D'accord, mettons le majeur en langue des signes japonaise, ça veut dire frère. Imagine un sourd-muet japonais qui a perdu son frère au jardin des Tuileries. Il le cherche et il fait des doigts d'honneur à tout le monde. On finit par lui casser la gueule au japonais. Et il l'aura bien mérité. Ok, il est sourd, il est muet, il est japonais, mais c'est quand même pas la faute des gens qui se promènent au jardin des Tuileries ici. Voilà un geste qui a des conséquences, et tu peux accuser celui qui reçoit le geste. Cause, conséquence. C'est comme ça que ça marche. Le doigt, le roman, réfléchit sur la portée du doigt, le geste, et sur le préjudice qu'il représente pour le parcours de cette femme qui a pourtant été physiquement agressée. Le doigt, le roman, est une introspection. Il réfléchit sur la violence ordinaire, la violence sociale, la violence institutionnelle, celle qui pousse une femme à faire ce geste, c'est le réitérer, qui pousse un homme à frapper une femme, qui pousse une femme à porter plainte, qui pousse l'institution à soutenir, ou pas, la victime des coups. Le doigt, le roman, raconte la violence des femmes envers les hommes, défensive, mais il raconte aussi la violence des hommes envers les femmes, dominatrices. On comprend en tout cas que le doigt est un geste qu'on ne pardonne pas. Le doigt, le roman, s'écrit de manière prégnante et récurrente comme une obsession, sans cesse ressassée, une obsession de la peur irrationnelle et persistante, un retour du toujours même. Comme la pensée circulaire et envahissante qui persiste, sinueuse, insidieuse, dans l'esprit des personnes qui ont subi une agression, dans leur esprit, leur mémoire, leurs rêves, leur nuit. L'impossible réparation. À qui? C'est comme ça. Le doigt s'habille des angoisses et des réminiscences du personnage. Je cite. La seconde fois, l'image continue dans le flux du nerf optique. C'est la main large comme une arme. Elle reconnaît aussi le bras en suspension perpétuelle au-dessus de la petite fille recroquevillée, le poing qui va frapper la chair, la rotation du poignet qui va abattre les fils électriques, la boucle de ceinture, le bois du martinet, le cou suspendu dans une cinétique irrévocable. Qui dit que la fille a perdu, que Laurent, le bastonneur, a perdu, et que, peut-être, c'était perdu d'avance. Le bras qui s'écarte à 90 degrés, elle en est certaine parce qu'elle a visualisé une équerre. Le bras qui prend le temps de se positionner, sentant ses châtiments. Elle sait, et elle. Elle ne fait rien, ne doit rien faire, elle n'est pas de taille. Autant attendre que ça passe. Les coups, ça va très vite et ça dure longtemps. Elle attend, ne bouge pas, ne s'éloigne pas. Elle attend que ça arrive. Elle observe de l'extérieur, elle n'est plus exactement là. Au fil du récit, autour de ce digitus impudicus, la narratrice remonte le temps et déroule des motifs récurrents. Agression, violence familiale, violence sociale, mission républicaine, investissement, éducation. Et le récit serpente dans 3 temps, l'agression contemporaine, une agression verbale plus ancienne, un « sale pute » pour laquelle elle n'a pas obtenu réparation, un passage à tabac par un élève hors de contrôle, premier traumatisme professionnel, première mutation. Et pourtant, elle lui avait appris à lire et à écrire grâce à Baudelaire. Mais on comprend aussi, dans ce récit, le doigt c'est bien plus que cela. Parce que ce doigt d'honneur est peut-être moins pire que la violence verbale et mieux que le silence. Je cite encore, « Elle a 5 ans, elle a 2 ans, elle a 11 ans, elle a 15 ans, 16, 18, elle a 20 ans, 34, 44, elle attend les coups immobiles, comme une madone, patiente comme une immortelle, résignée comme une connasse de pénitente. » Alors, la résilience. Alors le doigt, le roman, c'est cette plume épicée, vive, heurtée, dans laquelle on sent la force de l'auteur, tout l'art de raconter des épisodes dont on devine des traits autobiographiques, mais savamment mis à distance avec une narration à la troisième personne, pour viser à quelque chose de plus universel que la simple expérience personnelle. Du haut de son 1m52, on commence à admirer cette femme, qui, non contente d'être allée au-delà de sa condition sociale grâce à sa réussite scolaire, universitaire, s'est entièrement donnée dans le corps enseignant. Corps dont elle ne cesse de nous décrire les souffrances, les stigmates, augmentés par le positionnement et le discours de l'institution. Et à un moment, Yeezy, ça suffit. Yeezy, quand le personnage commence à questionner la place de la victime, son destin de victime, la violence qu'elle provoque malgré elle. Quand elle sort d'une vision manichéenne de la situation initiale, bon, méchant, coupable, victime, agresseur, agressé, faible, fort. Avec tous les commentaires annexes de la cour de l'établissement ou de la salle des profs, le regard des autres sur sa propre violence, parfois difficile à cerner, car le personnage est récidiviste. Ce n'est pas la première fois qu'elle se défend ou qu'elle s'exprime à son corps défendant. Et oui, et le doigt est un geste qu'on ne lui pardonne pas. Yeezy, quand elle commence, quand elle cesse de vouloir être l'icône de la République, celle qui répare et qui incarne la réussite sociale par le travail, qui se pose en modèle. Modèle soutenu par une Najat Vallaud-Belkacem, puis délaissé, une situation dont elle perçoit tout le mal fondé. Yeezy, quand elle sort du cercle vertueux ou vicieux de la lutte. Et ralas, c'est fini. Elle comprend que la réparation ne viendra pas de l'extérieur. Avec la baffe à 950 euros de réparation, dont la partie qui la dédommage couvre à peine la perte de salaire de son arrêt de travail. Car, n'était-elle pas déjà abîmée avant, puisqu'elle habite ce qu'elle appelle un corps d'occasion, ce que la société considère comme tel. Le préjudice est amoindri et la possibilité de réparation l'est aussi. Puisque, qui dit que le traumatisme est lié à la gifle, à la bastonnade et pas à son enfance miséreuse de fille d'immigrée dans les HLM de Clermont-Ferrand? Car le doigt, le roman, analyse très bien comment la victime est considérée aussi à travers le prisme de son origine sociale et comment, a priori, un enfant des quartiers compte moins que les autres. Et c'est une réalité flagrante qu'elle met en lumière. Le doigt, le récit, est un parcours intelligent, un parcours d'analyse. Un parcours sans communautarisme, sans cliché, qui parle aux enfants de l'immigration, aux élèves, aux profs, aux femmes, et sûrement aux hommes également. Car le doigt, le geste, le symbole, c'est bien plus que cela. Et le roman, une réflexion qui part de ce doigt et qui revient vers la fin à son point de départ, ce doigt, le geste, qu'on ne peut pardonner. Car enfin, qu'est-ce qu'un doigt? Le doigt qu'on brandit ou le doigt qu'on subit? Du doigt d'honneur au doigt de la honte? L'auteur nous rappelle que dans cette histoire, il y a aussi le corps des femmes et que le doigt peut être celui qui fouille sans consentement et que celui-là reste souvent impuni. Et que ce doigt reste un geste qu'on n'oublie pas. On remercie Dali Farah de mettre en lumière cette polysémie, de nous rappeler ce qu'une femme peut en faire et en raconter. Dali Farah, qui ne lâche rien et n'a de cesse de montrer la force des femmes, jusqu'à ses mots de la fin, grâce au doigt, elle obtient enfin les clés de son corps. La lune éclaire l'ombre du puits de Dôme, aux allures du mont Olympe. Heureusement qu'il y a un dieu fou en elle, un dieu qui n'a pas besoin de culte, pardon, un dieu qui n'a pas besoin de culte, juste de joie, parce qu'elle ne sait rien faire sans danser. Elle sourit d'être vivante, elle existe, même si elle a toujours peur de l'intime. We'll be right back.
Et voilà, chers amis de l'autre radio, cette émission se termine. Il est temps pour nous de rendre l'antenne, même si nous avons encore plein de sujets à explorer, d'Aretha Franklin à écouter. Merci à Agathe de nous avoir fait chanter.
Merci.
Merci à Chloé, Caro, Anna de nous avoir fait rire, découvrir et donner envie de lire. On se retrouve le mois prochain, toujours à 19h, le troisième mardi du mois. Nous serons au rendez-vous avec notre bonne humeur et vous. Bye bye.
Bye bye.
Tu parles comme un homme. Tu bois comme un homme. Ça ressemble à quoi, ça, franchement? Pas comme ça que tu as trouvé quelqu'un, je te dis tout de suite.